Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font.
Nous retrouvons Clément pour la deuxième partie de notre entrevue, qui cette fois-ci m'amène en balade faire la visite de la ferme.
Ça s'appelle une bergerie pour les chèvres ou une chèvrerie ?
Chèvrerie plutôt.
Une chèvrerie, ok. Voilà. Il y a des panneaux, il y a des ours et des. Et
des panneaux amusants.
Ah, faut faire gaffe.
Les chèvres, je les promène le matin, on le soir, ouais. À la fraîche. Ouais. Alors, en ce moment, on est. C'est une période assez chaude et assez sèche.
Ouais. C'est surtout le matin, du coup ?
Voilà, le matin et le soir, en fait.
Le
je
soir
pars,
aussi.
Le matin à 9h, je reviens à midi. Et le soir, je les traie le matin de 7 à 9 par les balader. Et le soir, je reviens. Le soir, je les traie à 5h30, 6h. Ouais. Et je pars de 6h jusqu'à 9h les balader. À peu près, c'est à peu près ce rythme-là en ce moment. Et donc, tous les après-midi, comme il fait chaud, elles restent à l'intérieur. De toute façon, tout le reste de l'année, elles sont quand même énormément en chèvrerie.
D'accord.
On va dire que le maximum que je fais par jour, c'est 6 heures de balade ou 6 heures à l'extérieur pour les chèvres, toutes seules ou avec moi. Et elles passent quand même une grande partie du temps à l'intérieur, donc c'est pour ça que je fais attention quand même à la propreté du lieu, un minimum, qu'elles soient bien assises, qu'elles soient dans un endroit propre,
d'accord,
et reposant pour elles.
Et je vois que tu as plusieurs enclos, pourquoi elles ne sont pas toutes ensemble en fait ?
En fait, il y a les jeunes chevrettes de l'année, que je ne mets pas avec le troupeau tout le temps pour éviter qu'elles ne soient pas encore sevrées complètement. Donc éviter qu'elles boivent trop le lait des chèvres. Et en fait, je les mets avec le troupeau uniquement quand je les sors.
D'accord.
Qu'elles apprennent que leur mère et que le troupeau leur apprennent à fonctionner ensemble et à manger dehors. Et
okay.
Après, il y a des enclos aussi pour les boucs.
Et les boucs, c'est ceux qui ont les grosses cornes ?
Ouais, ça va. Lui, c'est un petit, le plus gros, et dans un autre enclos un peu plus loin, parce qu'ils ne peuvent pas pour l'instant vivre ensemble. Et oui, ils se reconnaissent par des signes distinctifs.
Ça.
Normalement, ils ont une plus grosse morphologie et des cornes plus importantes.
Ça chamaille les boucs entre eux ?
Oui, les boucs peuvent être assez violents entre eux, surtout aux périodes de chaleur. Et puis, c'est un animal qui. Le troupeau, c'est une histoire de domination quand même.
Ouais.
Il y a quand même des dominantes et des dominés. Ce qui amène chez les chèvres, comme chez les boucs, des conflits,
uh-huh,
des bagarres et des histoires d'égo. Là, je pense.
Uh-huh.
Je peux parler qu'en leur nom, parce qu'elles ne pourront pas témoigner des rigueurs entre elles dans le troupeau, mais effectivement. Ça reste pas des animaux. Les enfants peuvent me dire il y a un animal qui est méchant avec l'autre. Non, il n'y a pas de méchanceté.
Ouais.
C'est une histoire vraiment de domination, de caractère de l'animal.
D'accord.
Et qui va vouloir s'imposer ou pas.
Et tu as aussi des ânes à côté des chèvres.
Ouais, j'ai des ânes en plus.
Ils s'entendent bien.
Je les mets pas ensemble. Les ânes, je pense, sont assez jaloux des chèvres. J'imagine tout simplement parce que je m'en occupe beaucoup moins que des chèvres. Après, les ânes, ils sont là pour nettoyer les parcs après les chèvres, manger le refus, le foin que les chèvres ne mangeront pas. Et les enfants aiment bien ça, quoi. Les ânes, c'est pas dérangeant.
Ouais.
C'est un moyen comme un autre, effectivement, surtout de nettoyer les parcs et de manger le refus.
D'accord.
Plutôt que de me retrouver avec des tonnes de foin pas mangé.
Bon, je vais essayer d'interviewer une ou deux chèvres. Si elle a quelque chose à me dire.
Plus loquaces que d'autres, les petites, elles vont parler, je pense.
Ah bon.
Plus loquaces.
Ouais, que c'est petit Mimi.
Bon, ça, c'est les chevaux de l'année, donc elles sont nées en février-mars.
Hein, les filles ? Ça pèse combien, là ?
Là, elles doivent être. Les plus grosses, elles doivent être à 20, je pense.
Mm-hmm.
Les plus grosses doivent être dans les 20
kilos,
et les plus petites doivent être dans les 15 kilos, à peu près.
Une chèvre adulte, ça pèse
40, 50 kilos, selon la morphologie.
Ouais, me l'échelle.
Je t'en prie, attends, c'est une émission tout public. Donc après, non, et les adultes, bah après, c'est des animaux qui sont habitués au contact humain. Il y a certaines chèvres qui sont très très proches de moi, d'une proximité même des fois qui est trop importante,
ouais.
C'est-à-dire qu'elles ne vont pas me lâcher la grappe, et d'autres qui sont très. Qui m'évitent, on va dire. Et là, ça, c'est pas forcément le traitement que je leur inflige, la manière dont je les élève,
ouais.
C'est moi dans l'idée qu'elles ont vraiment des caractères, des
d'accord,
caractères propres,
ouais.
Et c'est ce qui me plaît chez les chèvres, c'est que vraiment c'est très facile de les. Quand t'as l'habitude, il y a des gens qui sont surpris que j'arrive à reconnaître mes chèvres, moi elles ont déjà des robes différentes. Et après, le caractère joue énormément,
d'accord,
et c'est vrai que c'est pour ça que certaines chèvres ont des noms facilement. Il y a des noms qui viennent facilement, mais je pense que les gens sont impressionnés. Mais moi, je suis impressionné quand un professeur qui a 30 élèves arrive au bout de quelques jours à connaître le nom des élèves. Bah, moi, c'est pareil, c'est encore plus simple, c'est moi qui les ai nommés. Je passe beaucoup de temps avec elles, du coup, c'est facile pour moi de les reconnaître vraiment.
J'ai une petite question, c'est quoi le machin qui pendouille à leur cou là ?
Ça, c'est un intrigue tout le monde.
Ouais.
Les chèvres ont des pampilles, en fait.
Des pampilles ?
Pampi, c'est le nom que ça donne. Ouais. C'est deux petites excroissances de chair au cou. Certaines l'ont pas. C'est un caractère génétique qui se transmet, qui n'a pas... Enfin, j'ai jamais trouvé quelqu'un ou un ouvrage qui m'indique quelle incidence ça pouvait avoir. Mon beau-père disait que des bonnes laitières avaient des pampilles. Moi, non, j'ai des bonnes laitières sans pampilles. Ce que je m'amuse à dire, c'est que je pense qu'il y a très très longtemps, elle devait peut-être marcher sur six pattes. Ça me semble la meilleure explication logique.
Ouais, pourquoi pas, ouais, ouais.
Après, non, je crois que c'est une terminaison nerveuse quand même. Mais d'accord. Après, il n'y a aucune explication logique.
Ça, c'est un bouc, ça, avec ses grandes cornes.
Elle, c'est juste une chèvre qui a un caractère masculin, je pense, assez affirmé parce qu'elle est très très dominante.
D'accord.
Elle s'appelle Gazelle et effectivement, c'est une des plus dominantes du troupeau.
Il y a une différence de longueur de cornes, c'est dû à l'âge?
Ça peut être lié à l'âge, mais après, il y en a qui ne développent pas forcément des cornes. Ah, il y a aussi des fois, elles se frottent les cornes. Il y en a qui ont les cornes rétrécies parce qu'elles se les cornes, mais après, c'est beaucoup en caractère génétique.
Celle-là, elle n'a presque pas, elle n'a pas de cornes.
Ah, c'est en fait, moi, je coupe pas les cornes des animaux. Il y a des élevages où on coupe les cornes. Ouais. Moi, en fait, j'ai eu un bouc motte. C'est en fait, ça devient des chèvres mottes. Après, c'est des chèvres qui, génétiquement, n'ont pas de cornes. Donc, elles ont deux excroissances osseuses, on dirait, sur le haut du crâne. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont moins respectées dans le troupeau. Elle pourra avoir un caractère dominant même si elle n'a pas de cornes.
D'accord.
Elle pourra se taper avec les autres de la même manière. Ça change rien. Bon, c'est moi, je suis pas fan parce qu'au niveau visuel, c'est pas des animaux qui me plaisent.
D'accord.
J'aime beaucoup les animaux cornus. Ça serait une hérésie de lui couper les cornes. Je veux bien qu'au niveau sanitaire, soit plus pratique, et moins de risques, moins de dangers. Elles ont des cornes. Il y a une raison. On s'en rend compte.
Il fait pas très chaud là.
Non, c'est un endroit frais, c'est bien, c'est très agréable. Avec les grosses chaleurs qu'on a là, en ce moment 30-35, l'endroit est très frais, très aéré, ce qui fait que pour moi, c'est assez sain quand même comme espace. Ils peuvent y rester. Au niveau de la concentration des animaux, on est largement... Enfin, j'ai jamais vérifié les normes bio, parce que chaque fois qu'ils viennent, il y a des normes de nombre d'animaux au mètre carré. On est large... Enfin, je pourrais mettre, je pense... pas deux fois le même nombre de chefs dans l'espace, mais je pourrais vraiment le rentabiliser si je voulais vraiment faire ça. Mais j'ai pas d'intérêt, moi, à augmenter le troupeau. Et je trouve que c'est bien qu'elles aient leur espace vital, comme elles passent du temps, qu'elles aient de l'espace pour elles.
Quelle surface à peu près par chèvre?
Je pourrais pas te dire. Enfin, je regarde exactement les normes, mais je crois que pour les petits, c'est deux animaux par mètre carré, je crois. Et je crois qu'en adulte, c'est un animal peut-être 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, je sais pas. Là, en tout cas, on est largement... même quand ils sont venus, ils viennent chaque année pour la certification bio, on n'a jamais vérifié ça parce qu'on est largement en dessous des normes minimum imposées. On est largement dans les clous là-dessus, mais j'ai jamais réfléchi forcément à ça. En refaisant les espaces, l'espace existait déjà, mais moi je fonctionne, je vois que les animaux sont bien, ils sont pas les uns sur les autres, ils peuvent s'allonger quand ils sont au repos, tranquillement.
Il y en a beaucoup qui sont allongés là.
Oui, voilà, et puis ils sont pas les uns sur les autres, parce que je pense que ça peut créer des conflits, c'est comme tout, hein. On met les gens dans des immeubles, je sais pas combien de mètres carrés, c'est aussi bête que ça, je ne fais pas de l'anthropomorphisation tout le temps, mais c'est vrai que ça reste un mammifère et qu'il y a des envies et des besoins, et là-dessus, si tu les respectes un minimum, je pense que tu as moins de soucis sanitaires, tu as moins de soucis d'entente entre les animaux. Si tu leur offres ce que tu pourrais offrir, enfin, simplement à toi, moi, le paillage par terre, je ne fonctionne pas sur un rythme régulier. Quand je trouve ça trop sale, c'est simple. Je me dis tout simplement, est-ce que moi, je serais content de m'asseoir par terre si je peux même pas poser mes fesses sans me rendre compte que je vais mettre de la merde partout. Je me dis que les animaux, eux, ils passent leur nuit ici et une bonne partie de leur journée. Donc, faut qu'ils soient à l'aise. Ouais. Et je me rends compte qu'au niveau sanitaire, ça améliore.
D'accord.
J'ai moins de problèmes sanitaires sur le troupeau et sur le lait.
Ah, il s'est fichu là où il fallait pas, lui.
Non, il s'est protégé des autres.
Ah ouais.
En fait, il est né très tard. C'est un accident, on va dire.
D'accord.
Il est né très très tard et du coup,
une grosse
balade. Pas moi, en tout cas. Elle, je sais pas si elle a réfléchi comme
ça. Ah, c'est tout doux.
Moi, c'était pas de dire. Ah, t'as vu, hein.
Ah ouais. Un chevreau, le petit.
Oui, un chevreau. Et là, c'est une chevrette, en l'occurrence.
Une chevrette.
Une petite chevrette.
Elle est mal, alors, t'en fais quoi?
Alors, la valorisation des animaux. On va dire que là, cette année, j'ai dû avoir à peu près 36 chèvres qu'on m'y bat. Donc ça m'a fait 45 chevreaux et chevrettes à peu près. Je garde 10 chevrettes de renouvellement cette année. Ça oscille entre 8 et 12 animaux que je garde par année pour le renouvellement. Tous ceux que je garde pas, ça partira ou à l'engraissement ou je le valoriserai moi-même en les nourrissant. Le truc, c'est que j'essaie de les garder au maximum chez moi pour m'en occuper. Même en étant végétarien, c'est pas un rebut pour moi de l'élevage. Il faut que je m'en occupe, que j'essaie de le de m'en occuper au mieux de mes possibilités et aussi au mieux après des possibilités financières parce que ça a un coût. D'accord. Je les sépare très vite des mères pour avoir du lait pour moi pour traire, mais après c'est pas pour ça que je les balance à un engraisseur tout de suite.
D'accord.
J'essaie de, au maximum de les valoriser moi-même et de les nourrir moi-même et de m'en occuper pour qu'ils arrivent à un stade optimum pour la vente, dans des manières saines.
Qu'est-ce que tu appelles l'engraissement ?
L'engraissement, en fait, bah, c'est la partie de l'élevage. Tous les animaux viande, on doit les nourrir d'une certaine manière qui va faire qu'ils vont prendre le plus de viande possible en un temps le moins long possible.
Le vendre pour la viande.
Voilà, le vendre pour la viande, ouais.
Est-ce que tu cèdes des animaux que tu as en trop, par exemple, à d'autres agriculteurs ? Est-ce que ça se fait, ça, échange d'animaux ?
C'est rare, parce que souvent, le problème, c'est que les boucs viennent de l'extérieur du troupeau. Ça, je l'achète à d'autres éleveurs. Après, c'est souvent, maintenant, on parle beaucoup de sélection génétique sur les animaux et de choses comme ça. Nous, on n'est pas très au point là-dessus. On fait ça assez artisanalement, on va dire.
Ouais.
Donc, du coup, je n'ai pas un élevage réputé au niveau génétique. J'ai pas des animaux qui sont carrés pour la fromagerie, qui sont recherchés, donc il n'y a pas de demande. J'en cède à des amis qui peuvent avoir un jardin, qui ont envie d'avoir un peu de vie dans leur jardin, ou ça peut arriver, des éleveurs qui me demandent, mais c'est pas des grosses fermes, et c'est pas des gros élevages, c'est plutôt des amis qui élèvent dans le coin, qui ont envie de changer un peu la génétique de leur troupeau, et amener un autre type de génétique. On va dire que c'est quand même un élevage assez rustique. Et rustique, voilà, comme beaucoup de concepts, il y a du positif et du négatif. Et moi, j'ai tendance à voir le côté positif du côté rustique. Et des gens, par contre, vous trouveront tous les mauvais côtés de la rusticité. Ça, c'est chacun son point de vue et chacun y fera ce qu'il veut avec. Les chèvres, on a beaucoup trop. Là, c'est une vraie activité économique, les chèvres. Ça ramène effectivement de l'argent et on ne pourrait jamais manger tous les fromages qu'on produit. C'est impossible. C'est un choix. Le maraîchage, c'est la majeure partie, c'est pour nous. Et si on a trop, on va le vendre. Mais ça reste pour nous, le pain, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait vraiment à la base pour nous. Et que si on a trop, on va le vendre aux gens. Mais pas forcément dans un outil de rentabilité, mais c'est plus des fois pour que le coût qu'on a eu sur certaines productions, l'achat des graines, ou l'achat de la farine pour les gâteaux, ou le pain, ou des choses comme ça, ça nous rembourse quelque part une partie de nos achats. Et donc c'est intéressant, et je trouve que c'est... Là, j'avais parlé un peu de vente directe au début. C'est vrai que voilà, le confinement m'a vraiment m'a rappelé les raisons premières pour lesquelles j'aimais la vente directe, en fait. C'est que d'un seul coup, je pourrais très bien vivre, hein, faire ma vie et vendre que à des magasins. Je vivrais ni moins bien, ni mieux au niveau financier. Par contre, au niveau personnel, je me rends compte que mon plaisir, c'est d'aller au marché, c'est de vendre à des gens et d'expliquer et d'avoir le retour de ces gens-là. Que quand quelqu'un se pointe au marché et qui me dit « Ah, j'étais passé il y a 3 ans en vacances ici », ou quelqu'un vient et me dit « Toutes les années, on vient ici au camping, ah là là, et vos fromages, toute l'année. » Mais là, ça te nourrit.
Ouais, ouais.
C'est sûr, le marché nourrit financièrement. Je ne fais pas ça pour la gloire uniquement. Mais le confinement, vendre qu'à des magasins, ça perd toute la saveur à mon métier. Enfin, je crois réellement que si on rentrait dans un monde où je devais vendre qu'à des magasins, je ne sais pas si je serais intéressé par faire ce que je fais.
Ouais.
Et je pense que j'essaierai de trouver d'autres manières.
T'as besoin d'interaction humaine, quoi.
Bah, en tout cas, je me rends compte que le travail, il est intéressant. Ouais. Ça m'amène de l'argent, ça m'amène des choses comme ça. Mais en même temps, c'est tellement agréable de voir des enfants, des adultes, n'importe qui, te dire que tes fromages sont excellents, ou te dire que tes fromages, ils les préfèrent comme ça, et pourquoi, et expliquer, et faire comprendre aux gens ce qu'on fait. C'est vraiment... ça nourrit autant, je trouve, que l'argent que je peux ramener du marché. Les deux sont assez mélangés.
Savoir ces chèvres, c'est une race particulière ou pas?
Bah en fait, c'est des croisements. Donc en fait, les boucs, je les change à peu près tous les 2-3 ans. Ouais. Et j'essaie souvent de changer entre des alpines chamoisées, enfin alpins chamoisés pour le bouc,
ouais,
et des sananes.
Les marrons là.
Voilà, marron avec le trait noir sur le dos.
Avec le trait noir, ouais.
Ça, c'est vraiment ça, les alpins.
Ouais, ça ressemble à un chameau un peu.
Et après, les tout blancs, c'est ouais. Les sananes. Et après, donc, il y a eu plein de différences de couleurs avec les croisements, en fait, tout simplement.
D'accord.
Ça fait, c'est deux races qui sont quand même assez, assez laitières, ouais. Qui sont assez classiques en élevage, quand même, de production. Ouais. C'est pas des races forcément rustiques, comme peut-être certaines chèvres, les chèvres des fossés ou les chèvres massifs centrales, etc. C'est quand même d'accord. Des chèvres qui ont une génétique normalement potentielle de produire du lait. Mais après, on ne les pousse pas. Au niveau de l'alimentation et tout ça, ça reste assez doux et assez souple. Je ne leur demande pas, enfin, j'entends parler d'élevage à 3-4 litres par jour, par chèvre. On est vraiment très très loin et je ne suis pas en regret. Parce que ça, je pense qu'un élevage trop intensif implique une vie moins longue de l'animal. Parce qu'elle produit énormément. Nous, c'est vrai qu'on peut avoir des animaux qui font 8 ans ou 9 ans chez nous. Et qui sont, pour moi, c'est pas forcément la rentabilité que je cherche forcément chez l'animal tout de suite. C'est aussi, des fois, l'animal, comment il se sent, s'il est bien, et moi, mon rapport avec cet animal-là. C'est des raisons aussi qui peuvent me laisser garder un animal qui est moins productif.
Et quand elles arrivent en fin de cycle, qu'est-ce qu'elles deviennent?
La plupart du temps, elles meurent en fin de cycle.
D'accord. Ouais, non, mais
donc, c'est-à-dire que, là encore...
Quand elles ne produisent plus de lait, grosso modo,
ou il y a un problème sanitaire et elles ne se sentent pas bien, et là, ouais. Je dois l'amener à la réforme, donc à l'abattoir.
Ouais.
Et après, sinon, il y en a qui, tout simplement, sont devenus trop âgés pour produire de manière saine, de manière... bien pour elle, quoi, tout simplement. Donc souvent, ces réformes aussi, ça part à l'abattoir, effectivement. Mais alors, vraiment, la vie d'une chèvre, dès qu'elle fait plus de lait ou qu'elle est plus apte à en faire, ça reste malheureusement un outil. On peut rentrer dans des idées de droit animal ou de bien-être animal. Ça reste foncièrement quand même un outil. J'aime les chèvres, mais j'élèverai pas un troupeau juste pour avoir des chèvres dans mon jardin. C'est pas ça non plus. Il y a forcément une idée économique à la base, mais je pense qu'on peut le faire de différentes manières, sans forcément voir du productivisme à chaque coin de rue. Quoi.
Et est-ce qu'il y a une valorisation des cornes ou du cuir de la
Non, je pense pas. Non. Je pense pas.
Toi, tu t'en occupes plus après.
Peut-être il faudrait que je m'en occupe des fois parce que je me rends compte de choses des fois qui sont gênantes, mais. Je sais pas exactement comment ça termine. Je pense que ça fait de l'écarissage et après, qu'est-ce qu'ils en font? Une croquette pour chien ou est-ce qu'ils les envoient dans les îles françaises parce qu'il y a une grande consommation de chèvres? Je sais pas du tout. Alors là, d'accord. J'ai vraiment aucune idée de comment ça peut se passer.
Bon, mais on va peut-être pouvoir aller ausculter ton potager.
Là, ça fait la deuxième année que Muriel fait du gingembre qui donne pas mal.
Ou graines de serre. Donc le gingembre,
ça c'est du gingembre.
Ça, ah oui,
c'est ça. Ouais.
D'accord.
Ça, et après les tubercules, ils poussent dans le sol.
C'est tout en longueur, ça, de grandes feuilles fines.
Il y a un peu un bambou, un roseau.
Ouais.
On n'en voit pas encore, mais après, on a eu une très bonne récolte l'année dernière. Les tubercules poussent juste à fleur du sol et on les récupère. C'est de la pouzzolane qu'on a mis de la roche de volcan là.
Ouais.
Et on est assez content. On est assez content de ça.
Ça donne bien.
Donc on fait des cultures classiques, on va dire, en maraîchage, soit toutes les cultures de saison, et on s'amuse à faire d'autres cultures en plus pour s'amuser, parce que c'est agréable, faire que des types de monoculture,
pour s'amuser, c'est du boulot quand même.
Oui, mais là encore, tu vois, le travail, on va parler, qu'est-ce que ça veut dire. Je suis maintenant devenu un peu autiste par rapport à mon travail, et c'est vrai que je ne sais pas ce que ça veut dire, le travail en lui-même. Est-ce que ça veut dire c'est le moment où je gagne de l'argent, le moment où je fais quelque chose qui me plaît pas parce que je suis contraint de le faire, je ne sais pas. Toutes les choses que je choisis de faire, c'est moi qui choisis. Je dis pas que je suis ravi tous les jours de faire les choses, mais c'est moi le moteur de ça. Donc si je veux, si ça m'emmerde, j'ai pas à dire à mon patron j'en ai marre. Ouais. C'est moi qui arrête de le faire. Mais après, ce que je ferai pas, ça impliquera ou de l'acheter, ou de trouver un moyen de le faire, ou trouver les moyens pour le faire. Et bah, quelque part, les activités que je peux avoir ici dans la ferme, bah, c'est vraiment plaisant. Quoi. Je dis pas que ça me fait gagner de l'argent toutes les cultures.
Ouais, tu prends plaisir.
Voilà, c'est quand même une forme de développer des. Répondre à des curiosités qu'on peut avoir, à des envies de prouver les choses. Soit l'autoconstruction, bah, c'est agréable de faire les choses par soi-même. Ouais. Que ça soit couler une chape, faire de la charpente, faire de la méca, faire les trucs comme ça, ça fait partie de la vie. Donc après, est-ce que si ton travail devient que de la vie ou que la vie devient du travail, là je pourrais pas faire la différence entre les deux. Quand tu vis sur ton lieu de travail, ouais, ça devient difficile en tout cas de faire la différence entre les deux.
Tu connais l'origine du mot travail ?
Un instrument de torture.
Ah, le trépalium.
Oui, après, c'est un peu.
On peut dire avoir une activité, quoi.
Bah, c'est-à-dire que dans une société maintenant où le loisir est vu comme quelque chose de positif et le travail comme quelque chose de négatif, il faudrait peut-être trouver des nouveaux termes pour expliquer quand tu fais quelque chose qui peut correspondre pour d'autres à un travail, mais qui, toi, en fait, est juste ta manière de fonctionner. Il faudrait peut-être trouver des nouveaux termes. Activité me plaît pas non plus. Ouais. Donc, je sais pas. C'est. Juste animer des outils, c'est agréable, mettre en place des choses, être payé ou pas de retour, de faire ses tomates, d'avoir ses propres légumes, de voir ses enfants ramasser les poivrons et en croquer en rentrant à la maison. C'est pas de l'argent là qui rentre direct, c'est des souvenirs que tu te crées à toi-même, des souvenirs que tu crées à ta famille ou aux gens qui viennent. Et c'est assez agréable pour ça.
Pour décrire ce que je vois,
C'est une serre, c'est une serre métal, à ossature métal.
Que tu as fait faire toi-même ou
Non, c'est mon beau-père l'a fait. Elle était entièrement délabrée quand il y a quelques années. On l'a entièrement refaite avec quelques bons gros billets.
D'accord.
Et on a tout refait nous-mêmes. C'est avec des panneaux. Ouais, c'est des panneaux en fait qu'on pouvait pas la mettre en verre. C'est une grande surface. Doit y avoir. Je sais pas moi, peut-être 80 mètres carrés là de panneaux en polycarbonate pour le toit parce que le verre était trop dangereux d'en mettre au-dessus de nous. Et après, donc c'est une serre qui nous sert à faire partir les plants en janvier, février pour faire les plants de légumes qui nécessitent de la chaleur avec des nappes chauffantes. Et après, tout le reste de l'année, on a mis, y a des citronniers, il y a des mandariniers, on a mangé des citrons les dernières années, donc ça marche quand même pas mal. Et on met toutes les plantes qui demandent beaucoup de chaleur quand même. Et des cactus aussi pour s'amuser, parce que ma belle-mère met les cactus.
Et donc, tu as fait des coffrages ?
Ouais, j'ai fait des coffrages bois et dans lesquels je mets la terre. Parce que, en fait, le sol, c'est de la terre, mais elle est tellement ancienne et tellement vieille.
Ouais.
En fait, on a préféré amener de la terre de l'extérieur, amener de l'amendement, du fumier, des choses comme ça, qu'on a mélangé pour faire des bacs, en fait.
D'accord.
Et c'est vrai que ça permet, du coup, c'est moins hauteur. Il n'y a pas d'idée, forcément, de permaculture, là, ou de quoi que ce soit. C'est vraiment juste une praticité parce que ça fait des espaces bien délimités entre eux, plus facile à travailler. Et pour la lisibilité du lieu, c'est plus pratique, je trouve, pour travailler dedans. Il y a beaucoup de plantes ici qui n'ont aucune idée de rentabilité, qui sont vraiment juste pour le plaisir des yeux. On aime bien les fleurs aussi, on aime bien les choses comme ça. C'est agréable d'avoir que l'outil de production tout le temps, c'est pas forcément ça qui me ferait le plus plaisir. C'est agréable aussi d'être des fois dans la non-production ou dans l'idée qu'il n'y a pas forcément directement une idée de rapport à de l'argent ou un rapport de rendement. C'est pas le problème de beaucoup de choses et ça, c'est agréable. C'est d'avoir notre métier nous permet de faire différentes activités. Enfin, je passe par plusieurs casquettes dans la journée. C'est une phrase que j'aime bien, effectivement. C'est la journée, je fais commencer la traite. Ça pourrait être le pain après à faire, ou ça pourrait être promener les chèvres, ou faire du tracteur, ou aller m'occuper du jardin, ou m'occuper des enfants. Là encore, il y a beaucoup, beaucoup de journées entrecoupées de plein d'autres activités. Ou aller faire la charpente dans pas longtemps de la maison parce qu'il faut retaper un peu. Ou de la méca, j'en sais rien. Là, vraiment, ça reste aussi... Il y a des impératifs, mais qui sont pas dictés par autre chose que la nature, par exemple. Si ça on va être obligé d'arroser, c'est sûr. Je vais pas choisir, je vais être obligé de nourrir les chèvres, c'est évident. Mais après, il y a beaucoup de choses aussi qu'on va faire vraiment par pur plaisir. On fait du pain une fois par semaine, pour le plaisir d'avoir notre propre pain, parce que ça, on est content de le faire, parce que c'est une matinée qui est agréable, on se retrouve tous dans la cuisine à faire des gâteaux, des pizzas, du pain, des biscuits. Et c'est quand même un moment... où on peut aussi, sur certains chantiers, se retrouver, comme ramasser la paille, ramasser les petites bottes cette année. C'est très agréable de se retrouver ensemble sur un chantier à l'extérieur, de suer un bon gros coup, et en même temps d'être dans l'effort. L'effort, pareil, n'est pas pour moi synonyme de contrainte ou de choses désagréables. C'est agréable de se taper des fois une bonne suée entre nous. Parce qu'on sait pourquoi aussi. C'est pas juste soulever de la fonte pour avoir des gros biscottos. C'est l'idée, on sait pourquoi. Enfin, là, c'est pas uniquement courir tous les matins, faire des bornes. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Balader au cul de mes chèvres pendant 3 heures, par contre, là, je sais pas si c'est sportif, mais je me régale. Ouais. Donc, je suis bien en ce moment. C'est pas un fait posé, c'est un travail constant qui s'amène. C'est pas tous les jours se persuader qu'on est content, c'est pas ça. C'est pas tous les jours se persuader qu'on est amoureux. Ouais. Mais c'est se rendre compte des gestes, du plaisir que tu peux avoir dans les gestes. Les gestes par rapport à l'autre, les gestes par rapport à ton travail. Et c'est ça, c'est... Ça se cultive. Ouais. Ça se cultive quelque part, ça s'entretient en tout cas. Mais ça doit pas être forcé. J'ai vécu en camion, bougé, fait des choses. Je me berçais de nomadisme. Je m'imaginais que la vie pourrait être un jardin à nouveau tous les jours et rencontrer toujours de nouvelles personnes. Je me rends compte que vivre sur un lieu, depuis que je suis arrivé ici, j'ai très peu bougé, j'ai très peu sorti. Mais je découvre des choses nouvelles selon les saisons, selon les lieux. Chaque jour amène des choses nouvelles qui sont pas effectivement pas... incroyable comparé à une personne qui prend un avion tous les jours et qui va se retrouver dans un lieu différent tous les jours, c'est évident. Mais aussi ça se cultive, cette envie de curiosité, cette envie de voir les choses devant toi qui vont t'amener une nouvelle vision, d'apprendre quelque chose de nouveau, de te régaler d'un petit plaisir, d'une couleur, d'une lumière, d'une odeur, n'importe quoi. Mais ça c'est quelque part ouvrir ses yeux, ses oreilles et être prêt à le capter et à le rendre aussi. Et ça, pour tout. Donc il n'y a pas d'acquis. Quand tu me dis on touche au bonheur, je sais pas. En tout cas, j'essaie d'entretenir les choses. Je suis heureux de ce que je fais. Voilà. On m'a posé depuis quelque temps beaucoup de questions. Est-ce que j'étais pas là? Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de lassitude dans ce que je faisais? Oui, pas là. Voilà. Lassitude.
Si, je te vois.
Donc, effectivement, je ne sais pas. Enfin, c'est là encore, c'est pareil.
Tu ne réfléchis pas à ça.
Bah, c'est non. Et je crois que quand je me dirais, mais est-ce que je suis là ou pas? Bah, peut-être. Enfin, est-ce que je suis dans la lassitude? Bah, peut-être que là se posera la question de peut-être qu'il faut que je fasse autrement. Parce que là, en tout cas, pas au jour le jour, mais sur une saison, sur une année, je me rends compte que en fin de saison, tu peux te dire, ouais, c'était dur cette année. La période d'hiver, les 3 mois de repos, ça reste pas du repos, mais c'est pas les mêmes activités. Mais mine de rien, pendant ces 3 mois-là, quand ça rembraye, quand on repart la traite, quand on repart le travail des champs, je réagis tout de suite. Et j'ai pas du tout l'envie de lâcher. Donc c'est sur des cycles plus longs. Non, il y a aucune forme de lassitude. Je me vois pas faire autre chose et pour l'instant, je me vois pas faire autre chose. Mais je me coupe aucun avenir possible aussi. J'aime bien ce que je fais et puis il y a encore 10 000 choses qu'on pourra faire. Hein. C'est pas le souci.
Ouais, hein. Ouais, la vie s'arrête pas demain.
Ah non. Il y a pas de. Donc il y a rien d'acquis. Hein. Ouais. Quoi que ce soit qui arrive, soit par toi ou par les autres, il y a rien qui est jamais acquis.
Donc on a une belle vue dominante plein sud.
Voilà, alors Bougnoles, soi-disant, ça, je ne suis même pas sûr que ce soit ça, mais ça voulait dire les bons yeux.
D'accord.
Donc l'idée de vue, d'une belle vue. Effectivement, on a une vue bien dégagée sur le sud, avec un point en hauteur.
Tu as une vue à quasiment 180 degrés.
Et effectivement, ça c'est un régal. Hein. C'est un régal d'être sur la terrasse, à boire le café, de pouvoir voir loin, de pouvoir loin devant soi, pas avoir le sentiment d'être trop enfermé dans un lieu. Ça permet de s'évader un peu mentalement, en tout cas.
C'est peut-être plus facile de trouver sa place quand on fait quelque chose de concret dans un paysage.
Ça dépend du point de vue, je crois. Ça dépend. On est dans une génération maintenant où c'est quand même vachement le virtuel.
Oui.
C'est vrai que je suis complètement réfractaire au virtuel. Et en tout cas, je me nourris de concret. Quoi. Là, c'est vrai que j'ai ce besoin-là. Je pense que les gens vont avoir de plus en plus besoin. Une société comme, de la même manière que le Covid, moi j'espère, rapprochera les gens plus que les éloignera. Ouais. D'un seul coup, qu'on mette les gens enfermés à ne pas se toucher.
Distanciation sociale.
Bah oui, distanciation sociale.
Ça fait peur, hein.
Moi, ça m'a donné encore plus envie de me rapprocher des gens. Ouais. Pas dans l'idée, je crois pas au virus, c'est pas ça le problème. C'est pas l'idée de la réalité sanitaire de ce problème-là. C'est tout simplement que je me suis rendu compte que j'avais besoin. Même le peu de contact que j'ai avec les gens, j'en ai vraiment un fort besoin. Ouais. Et qu'on a beau dans une société d'individualisme où les gens ont envie absolument de faire leur trou tout seul, mais on est un animal social, un animal grégaire qui a besoin des autres, mais fortement. Et que, du coup, effectivement, là, pour relier sur le concret, effectivement, moi, j'ai besoin. J'avais fait la menuiserie pour ça, pour créer des choses de mes mains. Parce que je n'étais pas d'une famille qui venait d'un milieu concret. Et effectivement, là, d'un seul coup, j'ai vraiment l'impression d'être dans le concret, d'avoir une graine, d'avoir un endroit, d'avoir un chevreau, d'avoir du temps pour les faire pousser. Et en même temps, le côté, comment dire, dérisoire de tout ça, le côté volatile. Parce que ces choses-là, la plupart des choses, c'est de la nourriture. Elles vont disparaître une fois que j'aurai consommé. Et il faudra recommencer, un côté cyclique, qui peut des fois être décourageant, mais qui est aussi vachement intéressant. Parce que c'est pas du concret qui dure. On fonctionne sur un instant. Tac, une saison, un moment. Et c'est... moi, je retire quand même un intérêt.
Ça incite à la modestie, quelque part, aussi.
Bah oui, oui. Ça, ouais. Ça rappelle qu'on... Nous-mêmes, on est de passage, hein, comme tout. Ouais, hein, les choses passent et disparaissent et reviennent ou pas, et sous d'autres manières, sous d'autres formes. Donc ça... Oui, il y a... Je sais pas, il y en a d'autres avant moi, sûrement. Peut-être Voltaire qui parlait de Candide, ou d'autres personnes qui ont déjà fait de la philosophie agricole, ou en tout cas du travail, travail manuel sur le jardin. Voilà. Ouais. Je pense que ça a déjà été fait. Mais effectivement, en étant dedans, tu peux très bien le voir, ou complètement l'oublier, et voir qu'un rapport à l'argent, ou qu'un rapport à la production. Bidon, chacun son point de vue, là, il n'y a vraiment aussi pas de jugement. C'est, moi, je me sens vraiment content. C'est pas un contentement global tout le temps de chaque seconde, mais là encore, quand ça va pas, bah, c'est un travail mental à se dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce qui ferait pour que ça anime un plaisir. Et puis bon, c'est vrai que j'ai aussi, voilà, c'est un plaisir qui est personnel, mais ça reste un plaisir familial. C'est aussi le plaisir de, bah, bêtement, d'avoir les moyens de pouvoir offrir des plaisirs à mes enfants, à ma femme. Et après, le plaisir de voir mes enfants descendre en douce dans le tunnel pour piquer des poivrons parce qu'ils sont mûrs et qu'ils ont envie de se régaler, ou voler des fraises dans notre dos.
Ah, bah, c'est chaud lapin.
C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir de se rendre compte que tu peux partager vraiment complètement ton métier avec tes enfants. Quand je faisais des meubles, je pourrais plus vaguement partager avec mes enfants. Si je faisais, je sais pas, courtier en assurance ou programmeur informatique, je suis pas sûr que je pourrais avoir un échange autant concret et direct avec mes enfants. Et ça, c'est vraiment agréable.
Merci à Clément pour ce grand moment de partage et pour la transmission de sa passion. Retrouvez Paroles Rurales en podcast sur le site de radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.